Donc, l'amour se vit au quotidien dans la vie professionnelle et dans la vie quotidienne, mais aussi le projet familial. Donc, il faut que vous l'ayez entendu une fois, même si vous le savez, même si vous y avez déjà réfléchi. C'est la vie professionnelle. Alors, de nos jours, dans les couples modernes, n'est-ce pas, où dans... c'est rare se trouve la... comment dire, la possibilité plus naturelle de fournir à la présence de, comment dire, de la mère au foyer, auprès des enfants, avec toute son activité et toute l'importance de son éducation et de sa responsabilité, puisqu'on considère qu'il faut, enfin pas qu'il faut, mais que... le travail de l'épouse, de la femme est important, mais on peut. Moi, je connais des. Je vous avais dit qu'il y avait des. Une avocate qui, du fait des enfants qui venaient, bah, avait suspendu son métier jusqu'à l'éducation du dernier pour reprendre son métier ensuite. Vous allez me poser la question piège, et alors, et combien elle a eu d'enfants pour arrêter son travail? Eh bien, elle a eu 7 enfants, donc en effet, dont un prêtre. Voilà. Que représente le travail dans ma famille? Ai-je envie de travailler? Alors, parfois, il y a des personnes qui n'ont pas envie de travailler, ou alors, pourquoi travailler? Des personnes qui vont avoir comme but ultime leur ascension sociale et leur métier et leur tout ce qu'ils peuvent obtenir davantage matériel, hein, pour être un peu dans la caricature. Sinon, il y a des personnes qui ont la joie d'avoir un travail qu'ils aiment pour leur épanouissement personnel. Oui. Ce sera par exemple l'exemple des musiciens. En général, on n'est pas contraint de devenir musicien, mais parfois aussi, après avoir choisi la carrière de musicien, on peut trouver cela lourd et perdre un peu l'envie de l'être et devoir continuer. Donc cet épanouissement personnel, d'autant plus que de nos jours, on vous demande, on vous suggère, dès que vous n'êtes pas heureux, de changer. Changer d'époux, d'épouse, mais aussi changer de travail. Donc, ou de faire de la mobilité au sein de votre entreprise ou dans un travail totalement différent. En vous proposant des modules de formation. Et ce travail, justement, qui peut nous prendre même nos soirées, n'est-ce pas, et plus particulièrement en temps de grève. Alors, mes parents ont-ils travaillé ou ma mère a-t-elle travaillé? Toutes ces questions sont marquées justement par le fait que dans le monde moderne, on travaille ou on ne travaille pas. Et il faudrait faire toute une analyse sociologique et économique pour savoir comment le travail des mères de famille a changé la société et a changé aussi la perspective de la famille, la famille nombreuse, enfin la famille, de ne pas avoir peur ou de ne pas craindre toujours le nombre d'enfants. Mon fiancé me parle-t-il de son travail? Est-ce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas parler de leur travail à la maison? Voilà. Me permet-elle de m'y intéresser? Bon, j'ai l'exemple d'une épouse qui a toujours détesté le mariage de son mari et qui n'a jamais voulu y participer de près ou de loin. À un moment donné, elle a bien été obligée parce qu'il avait 2 entreprises et une des 2 entreprises était assez proche. Et donc, elle a fait des démarches pour la deuxième entreprise. En ce qui concerne la première entreprise, qui était assez importante, jamais elle s'y est intéressée et surtout même, il voulait qu'il arrête. Seulement avec 35 employés, arrêter une entreprise qui est une partie de sa vie, ça va être difficile. Mais ça existe, hein, une confrontation sur le choix du travail. Bon. Alors, qu'est-ce que va vous dire un prêtre ou l'Église? Eh bien, La paix, la paix, la paix. Hein, donc, et c'est cette spiritualité de la, non pas de la résignation, mais de la paix. Ah oui, mais non, tout ça, mais ça devient insupportable à un moment donné. Voilà, c'est tout un. Alors, est-ce que c'est une résignation? Est-ce que c'est une acceptation? Est-ce que c'est un abandon, un sacrifice, une croix? Voilà. Mais la vie est-elle si longue ou est-elle si courte qu'on soit obligé de remettre en cause un amour personnel pour les conditions du couple par rapport au travail? Et il y a des conditions qui nous sont imposées de l'extérieur et qu'on suit. Une maladie, un exil forcé, une guerre, et le couple reste uni quand c'est une adversité claire et nette. Mais comme de manière paradoxale, en temps de paix, on va reprocher des choix qui ne sont pas contraints. Oui. Qui sont un peu plus libres. Alors on demande, tu devrais faire autre chose. Mais c'est sûr que de nos jours, on travaille trop tard aussi, et trop longtemps. Et les avocats divorcent beaucoup. Parce qu'ils travaillent jusqu'à 22h, 23h, et au bout d'un certain temps, on en a marre. Quoi. On voit pas son mari, on voit pas son mari. Loin des yeux, loin du cœur. Et c'est pareil pour les avocats. C'est un exemple, hein. Il y a des avocats qui sont très heureux, moi j'en connais un, ils travaillent pas mal, hein. Et ils sont très très heureux, et on a un très beau couple. Bon. Avons-nous évoqué la perspective d'une carrière professionnelle ou d'un changement d'orientation pour l'un et pour l'autre? Le travail de mon fiancé l'occupe-t-il trop pour qu'il puisse passer du temps avec moi? Avons-nous les mêmes points de vue sur le travail de la femme? Que pensons-nous du travail de la femme au foyer? Non financé change-t-il fréquemment d'emploi? Quand vous êtes commercial, par exemple, eh bien c'est toute une vie, hein, toute une vie d'être commercial, d'être représentant de commerce. C'est, mais d'un autre côté, c'est un vrai métier de nos jours, d'autant plus difficile que les personnes sont portées à acheter sur Internet ou à se méfier ou à. Les commerciaux maintenant sont plus dans le monde des entreprises, dans les contrats des entreprises. Bon. Nos choix professionnels sont-ils guidés par la recherche de l'épanouissement de chacun et des possibilités financières? Voilà. Vers quel partage alors des tâches domestiques? Voyez. Pourrons-nous supporter d'avoir des opinions politiques opposées? Quel est le rapport? Vie professionnelle. Alors on appelait ça là, mais donc les tâches domestiques. Alors, ça ne vous étonnera pas, moi je vous dirais que ne forcez pas trop la nature, mais il y a des hommes qui sont très propres, il y a des hommes qui sont très ordonnés. Donc ça existe ici. Et donc et des femmes qui sont très désordonnées, qui font et qui déçoivent beaucoup leur époux sur l'idée reçue que madame ramasse toujours ce qui est par terre. Voilà. Mais il est vrai que la saine coquetterie d'une femme qu'on trouve un peu moins chez les hommes est une source en fait de distinction et de propreté chez les femmes. Alors bien sûr, ce que je vous dis, bien c'est contraire à la théorie du genre et tout ça, mais la Sainte Église catholique considère que la théorie du genre est une idéologie fausse. Voilà. Donc, mais cela peut aussi, mais là on en avait déjà parlé, hein, donc je me limite à tout ce qui est de l'organisation du foyer, qui sont des évidences, et il y a des livres pour ça, mais des livres aussi qui sont là pour vous mettre la zizanie entre vous et vous dire que les tâches doivent être comme ci, comme ça, parfaitement égales, et tout ça. Votre équilibre, vous le trouverez. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas vous donner, ni dans une préparation de mariage, qu'elle soit la plus simple possible, ou autre, non, c'est le bon sens. Et là, le bon sens, c'est quelque chose de... C'est la prudence, c'est le bon jugement, la bonne appréciation des faits, des situations, des paroles. Ça, c'est vrai pour tout, hein. Mais plus particulièrement dans les querelles ou dans les questions d'argent et de métier. Le bon sens. Et le bon sens, c'est le sens de l'union. Puisque je vous ai dit, de nos jours, si on fait autant de préparation en mariage, si on parle tellement, ben c'est parce qu'on a une seule crainte, hein, c'est le divorce. Mais vous n'allez pas vous être à une préparation de mariage pour envisager le divorce, non? Mais voilà, nous, on est marqués par cette peur, par cette crainte. Donc on voudrait vous convaincre de mille manières de vous aimer, de vous comprendre. En fait, tout revient à cela. Hein. Mais on essaye un peu de vous orienter. Donc, à côté du métier, vous avez les loisirs. Et quels sont mes loisirs et intérêts, sportifs et autres? Moi, j'ai connu un couple où l'homme était extrêmement sportif. Voilà. Et donc, son épouse, Nolan Malan, l'a suivi pendant une dizaine d'années. Il faisait même du triathlon, hein, donc imaginez. Donc, voilà. Mais au bout d'un certain temps, ça l'a lassé. Hein. Attention, hein, c'est pas... Le sport. Et je peux vous assurer qu'on ne fait pas assez de sport, puisque 90% des gens étaient paysans, et les paysans faisaient du sport tous les jours, ils étaient dehors, ils faisaient ceci, ils faisaient cela. Et donc le sport était une activité universelle pendant des siècles. Maintenant on a du sport loisir. Vous voyez ? Mais vous savez qu'on sécrète de l'endomorphine au bout de 20 minutes d'effort. Et si vous faites 30 minutes de sport, eh bien, vous pouvez avoir un apaisement physiologique et nerveux très bon. Non médicamenteux, étant une partie du sommeil, sachez-le. Essayez l'activité, mais attention, l'activité physique. Vous voyez ? Vous décidez de nettoyer l'appartement de fond en comble, de tout ranger, de tout classer, tout ça. Et parce que vous êtes debout, parce que vous prenez des choses, vous les déplacez, vous nettoyez, tout ça, ben, en fait, si vous voulez, vous n'arrêtez pas de bouger et c'est du sport. Enfin, vous n'allez peut-être pas ranger votre appartement parfaitement toutes les semaines. C'est-à-dire 2 heures de rangement non-stop qui vous provoque une activité sportive. Équivalente d'aller courir pendant 3 quarts d'heure pour vous écraser les genoux, pour vous péter les hanches, et voilà. Parce que si vous faites du footing toute votre vie, ben vous aurez des cannes à 70 ans. Parce que vous voyez, vous avez la. Comment ça s'appelle? Ce qui entoure les cartilages qui foutent le camp. Faites attention, trop de sport, pas assez de sport en s'étiole, trop de sport, on sera bougri. Voilà. Puis je l'ai partagé avec mon fiancé, quelle place aimerions-nous leur accorder personnellement, en couple? Envisageons-nous par exemple, alors là les loisirs, c'est plus que le sport bien sûr, les visites culturelles, le théâtre, les voyages, le cinéma, la guerre des étoiles, le dernier film de la trilogie, si vous avez l'âge, et si vous êtes trop jeune, vous dites, voilà, et si vous n'êtes pas geek, vous n'allez pas mercredi prochain tout arrêter pour aller voir le dernier épisode au Grand Rex sur le Grand Large. Donc, mais la lecture, alors là c'est un peu jeune hein, comme question, parce qu'on peut développer sur ce qui vous intéresse, et justement, les opinions politiques. Parce que tout ce qui est loisir, tout ce qui est recherche d'informations en dehors de la vie professionnelle et de la vie purement de couple, c'est ce qui vous intéresse. L'économie, par exemple, le fait que les assurances vie en fonds euros vont disparaître. Ça vous intéresse peut-être. Surtout si vos parents en ont. Vous voyez? Mais si vos parents n'en ont pas, ça vous intéressera moins. Vous voyez? Donc ça va passer à 1%, à 0,5% de rémunération, les assurances vie. Ensuite, on va pas, le capital ne sera plus certain. Voilà. Vous n'êtes pas au courant? Alors vous allez me dire, mais pourquoi il dit ça? Parce que un de mes hobbies, c'est l'économie. Enfin, c'est l'économie, c'est la situation sociale. Vous ne feriez pas de la politique, vous? Ben non, je peux pas vraiment en tant que prêtre, mais si vous voulez, je veux savoir pourquoi je peux plus prendre le métro depuis une semaine. Donc je veux savoir pourquoi, comment on paye les retraites, par répartition, par capitalisation. Je veux savoir ce que c'est qu'une crise économique. Je veux savoir ce qui s'est passé en Grèce. Je veux savoir pourquoi mes paroissiens vont pas donner à la quête ou au denier du culte. Ça, c'est accessoire. Mais je veux savoir pourquoi mes paroissiens vont souffrir économiquement ou financièrement. Parce qu'il est vrai que dans la vie humaine, le fait d'être au chômage, le fait de manquer d'argent, c'est quelque chose de lourd. Et que bien souvent, dans la prière, dans la religion naturelle, on demande à Dieu la santé et la prospérité. Et donc si moi, je suis complètement abstrait et je me fous complètement de savoir si vous avez de l'argent ou pas, si vous pouvez vivre ou pas, si vous pouvez avoir un appartement ou pas, ou de combien de pièces ou pas, ou mettre vos enfants que je vous encourage à avoir en étant ouvert à la vie, il me manque une certaine curiosité, et comme je suis juriste de formation, cette curiosité, pour moi, elle est pleine et entière. Mais vous allez avoir peut-être d'autres sujets qui vous intéresseront, suivant votre métier, suivant vos choix, suivant votre éducation. Et c'est vraiment, bien sûr, important, mais là, j'enfonce des portes ouvertes. Mais en règle générale, si vous vous êtes aimé, si vous vous êtes plu, si vous vous êtes fait la cour, c'est que vous avez des intérêts communs. On voit rarement Monsieur Mélenchon se marier avec, comment dire, une femme qui est spécialisée dans le trading haute fréquence. Vous voyez ce que ça veut dire? Trading haute fréquence? Des algorithmes qui vous permettent de gagner des millions en un jour. Parce que vous achetez et revendez des actions en un millionième de seconde, grâce à la fibre optique ou grâce à des transmissions par onde sur pylône. C'est ce qu'ils font aux États-Unis. Des trucs absolument extraordinaires. Voilà. Alors justement, en parlant d'argent, quel est votre rapport avec l'argent? Quelle valeur a-t-il pour vous? Suis-je plutôt économe ou pas? Comment est-ce que je gère mon argent? Dans quel domaine suis-je le plus dépensier? Ma famille est-elle connue pour avoir des difficultés financières? Quelle place voulons-nous donner à l'argent dans notre couple? Moi, je connais un couple. Je devrais pas dire que je le connais, mais bon, vous voyez, je prends l'exemple d'un couple authentique, vrai. Comment dire, c'est épouvantable. Mais épouvantable. Parle que d'argent, ne pense qu'à l'argent. Pourrissent les relations avec leurs frères et sœurs pour des questions, petites questions d'héritage, de machin, de trucs, d'objets, de légués, pas légués, machin, tout ça, par la grand-mère, par ceci, par cela, mais à des querelles, mais vraiment impressionnantes. Donc des personnes cupides, et le problème, c'est que ça peut vous arriver, si vous n'êtes pas cupide, si en fait vous êtes tous ici vertueux, pour un mauvais partage lors d'un héritage, qui développe en vous une jalousie redoutable vis-à-vis d'un frère ou d'une sœur. Mais vous n'arrivez pas plus à leur parler, à les revoir en réunion de famille. Et ça impacte forcément votre épouse ou votre époux. Voilà. En tout cas, vous connaîtrez jamais vos enfants ne connaîtront pas leur cousin germain ou cousine germaine. Ça, c'est sûr. Voilà, l'argent, quelque chose de extrêmement à surveiller de manière extrêmement attentive. Avons-nous des dettes? Voilà. Alors, bon, ben, on se dit dans une préparation au mariage, les couples sont là, c'est pas possible, vous pouvez pas avoir ces problèmes. Ben, si. Et si un jour vous empruntez trop, tout ça, voilà. La dette du ménage, dépenser au-dessus de ses moyens. Réfléchissez, réfléchissez, réfléchissez. Jeune couple, tout fout la galette et tout ça, et sans avoir les moyens, ils ont fait un mariage incroyable. Et quand vous avez la commission de surendettement qui s'occupe de vous, ça s'appelle la faillite personnelle. Ça s'appelait la faillite personnelle. Mais actuellement, on ne permet pas aux États de tomber en faillite, ils doivent payer la dette jusqu'au retour du Christ. Nous sommes-nous mis d'accord sur le niveau de vie que nous voulions adopter? Eh bien, une des raisons pour laquelle on parle dans le désert, en tant qu'Église catholique, ben, c'est parce que les enfants, quand ils viennent, forcément, en effet, répartissent votre niveau de vie. Alors, c'est vrai. Et donc, oui, mais on a moins de loisirs, on a moins de ci, on a moins de ça, de ça. Ben oui, mais vous aurez plus de diversité d'amour, vous aurez le dernier qui s'occupera de vous dans vos derniers jours, pas forcément d'ailleurs, mais bon. Voilà. Moi, ma mère s'est jamais empêchée d'avoir des enfants, elle n'a jamais pris la pilule ou quoi que ce soit, on n'est que deux. On est deux. Voilà, c'est bien, c'est. Mais si vous voulez, le drame des sociétés actuelles, c'est le manque d'enfants. Et ça, après, vous voyez, comme a dit Monsieur Delannoy, il nous faut 50 millions d'extra-européens qui viendront pour compenser notre manque de démographie. J'aurais tendance quand même à dire à Monsieur Delannoy, 50 millions d'enfants aussi, peut-être. D'autant plus que ça peut relancer l'économie, qu'on a envie de les nourrir, de les habiller. Enfin, si on n'achète pas tous les vêtements et toutes les chaussures et tout en Chine. Enfin voilà, c'est des choix de société hein, aussi. Hein. Mais il est quand même naturel, si vous voulez, que les 10 commandements, quand on ne les suit pas, c'est un impact social et économique. Je trouve ça logique. Si c'est vraiment mauvais, à un moment donné, un terme, ça sera très mauvais. Et comme même justement de ne pas avoir la foi, de ne pas la cultiver, de ne pas la rechercher, de ne pas prier ensemble, sanctifier le jour du Seigneur, est-ce que ça a des conséquences sur l'atmosphère d'une société? Ben forcément. On est dans des sociétés agnostiques, voire athées, et bien voilà. Donc il y aura des conséquences. Il y a des conséquences. Alors, y a-t-il un décalage important du milieu social, de la situation financière entre nos familles respectives? Hein, quand on paye le mariage, en général, ça se sent. On est vexé pour le reste de nos jours et on voit plus notre belle-mère parce qu'ils ont payé plus que nos parents, qui avaient moins de moyens que les beaux-parents, qui étaient plus riches, qui plus naturellement ont donné plus d'argent. Mais finalement, on voulait pas. On voulait que ça soit 50-50 parce qu'on voulait pas être vexé, parce qu'on est français. Et les Français et l'argent, c'est quelque chose. Par contre, les Anglo-Saxons, eux, l'argent, bah, si on peut dépenser, on dépense. Et voilà, c'est des mentalités. Et sachez qu'en Inde, lorsqu'on fait un mariage, on s'endette pendant 20 ans pour des familles humbles. Et les missions catholiques en Inde ont beaucoup de mal à lutter contre cette coutume très indienne, sur des siècles, au point que je crois que c'est le peuple indien, pakistanais, bangladi, hein, a une possession d'or physique dans les familles assez importante. Et la dot, c'est des bijoux que porte l'épouse le jour du mariage, la fiancée le jour du mariage. Et de vrais bijoux en or pur, enfin 12 carats, 24 carats, comme vous voulez. Et puis vous avez aussi, dans des pays de mousson, dès que la mousson est bonne, on achète de l'or. Ce qui rend fou les banquiers internationaux, qui veulent pomper l'or du monde entier pour pouvoir faire une banque unique et universelle. Et donc, ils sont fous furieux parce qu'en Inde, il y a plein de réserves d'or de particuliers. Voilà. Eh bien, cet argent est une des clés de l'ouverture à la vie. L'amour s'exprime dans la tendresse et le don du corps. Il est source d'une fécondité charnelle et spirituelle dans l'ouverture aux autres. Est-ce que je connais mon corps ? Waouh ! Là, on retrouve Psychology Magazine. Est-ce que je l'aime ? Et si vous êtes trop gros, trop maigre, machin. Si vous êtes fier de vous, si vos cheveux tombent. Et que vous faites une implantation de pépinière d'Erly. Vous savez ? Parce qu'on n'arrive pas vraiment, je ne sais pas pourquoi, quand on fait des implants, c'est toujours en randonnion. Alors je suppose qu'ils ont changé de méthode de nos jours et que c'est un peu plus anarchique. Mais quand vous avez quelqu'un qui s'est fait faire des implants, vous voyez ses cheveux là, sur son front. Vous voyez ? Des haies entières, parallèles, c'est terrible. Moi, je connais comme ça un monsieur extrêmement attentif au fait d'avoir perdu ses cheveux, qui s'est fait faire des implants, mais de la manière la plus horrible qui soit. Ils sont tous à 2 mm les uns des autres, en champ de pommes de terre, et c'est, on ne voit que ça quand on le voit. Donc c'est pire, quoi, je sais pas. Il aurait une tête comme un genou, ça serait parfait. Quoi. C'est terrible. Enfin voilà, c'est comme ça. Abordons-nous librement le sujet de la sexualité. Alors de nos jours, on ne plaisante que sur ça. Tous les humoristes ne parlent que de ça. 90% des blagues sont là-dessus. C'est impressionnant. Que ce soit en France ou aux États-Unis. Si vous êtes intéressé sur Google News sur le plagiat que certains humoristes français ont fait. Du coup, moi, par curiosité, j'ai regardé des sketchs américains. Mais bon, c'est vraiment relation homme-femme. Vous savez, les femmes viennent de Vénus, les hommes de Mars et tout ça. Tout ça, c'est toujours la même chose. Hein. Là, 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 là. Finalement, ils sont pires que les puritains. Vous voyez. Là... La grivoiserie moderne, finalement, ça en vient à être aussi envahissant que celui qui sera totalement puritain et ultra pudique. C'est envahissant. Ça dramatise même la sexualité. Moi, quand je connais des couples qui sont justement très ouverts à la vie, qui n'ont pas toujours peur d'avoir un enfant à chaque fois qu'il pose acte conjugal, ben ils sont très épanouis. Hein. J'ai vraiment en tête des exemples, voilà. Alors que vous avez des personnes qui sont vraiment terrorisées pour avoir des enfants à chaque fois qu'ils posent acte conjugal, et comme ou ils sont cathos, ou ils sont écolos et qui veulent pas la pilule. Qui donne le cancer, qui donne des vergetures, des machins, des trucs, des thromboses et tout ce que vous voulez. Et donc la méthode Billings, la méthode des températures, la méthode d'autres fluides humains, n'est-ce pas ? Mais c'est vraiment une dictature, quoi. C'est le cahier, le stylo, quoi, tous les jours. Voilà. Quelle est l'attitude de chacun de nous face à la fidélité du corps ? Quelle place donnons-nous à la tendresse dans l'amour, les paroles, les gestes, les attitudes ? Et de renouveler justement, de ne pas être l'esclave de ce qu'on vous dit, de l'épanouissement sexuel, sur tout ce que vous devriez faire, et même contre nature. L'accouplement naturel... C'est ce qu'on appelle la position du missionnaire, n'est-ce pas ? C'est face à face, visage face au visage. Et donc, avec l'acte naturel, c'est de déposer la semence dans le vagin de la femme et pas ailleurs. Et donc, les actes d'affection, les actes comment dire, d'excitation mutuelle sont invités, sauf surprise, sauf. Sont invités à. Comment dire. Et donc, cet acte naturel. Il est profondément inscrit dans notre nature c'est pour ça que l'Église vous rappelle cette loi naturelle que donc ni préservatif ni contraception chimique ne correspondent à la vie sexuelle naturelle. Et donc aussi, et donc, mais ça c'est plus difficile de nos jours parce qu'on va terminer sous le coup de la loi d'ailleurs, un jour ou l'autre, hein, de considérer que tout ce qui est sodomie entre un homme et une femme, mais aussi entre deux hommes, est des actes contre nature. Et ça, comment dire, un jour on ne pourra plus le dire. Alors que nous invitons toutes les personnes qui ont des tendances homosexuelles à vivre chastement pour respecter la sexualité naturelle. Et vous voyez, j'essaye de le dire de manière la plus calme possible, mais peut-être qu'un jour, cela ne sera même plus permis, ce que je vous dis là, maintenant. Alors, cette importance de la sexualité entre l'homme et la femme fait que le concubinage n'est pas censé être un mariage à l'essai et que l'acte sexuel normalement doit être réservé au mariage. Parce que l'acte sexuel étant naturel, les enfants peuvent venir. Or les enfants ont un droit en justice à ce que leur père et leur mère se soient promis l'un à l'autre. Un enfant qui naît hors mariage, vous allez me dire « oui mais nous on va rester ensemble » et on va l'éduquer ensemble jusqu'à ce qu'il ait 12 ans, 15 ans, 18 ans, 25 ans, même 30 ans, on ne se séparera jamais. Mais oui, mais vous n'êtes rien promis, vous pouvez vous séparer. Et en soi, c'est quelque chose qui plane, une pseudo-liberté qui plane tout le temps au-dessus de vous, mais aussi au-dessus de l'enfant, figurez-vous. Le mariage, c'est celui... Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on voit des couples dire, voilà, maintenant on se connaît bien, tout ça. Bon, on est plus ou moins sûr qu'on ne va pas divorcer. Donc on peut avoir un enfant et on peut se marier. Eh bien, le fait de se donner l'un à l'autre dépasse largement cette crainte de ce mariage à l'essai ou du concubinage. Et c'est vraiment la décision... Nous nous aimons, nous nous connaissons, mais nous ne nous connaîtrons jamais totalement. Et nous décidons de vivre ensemble et nous décidons de poser cet acte d'amour qui font venir les enfants, qui peuvent faire venir les enfants. Donc vous comprenez que d'un point de vue de la loi naturelle, la sexualité est liée au mariage et à l'ouverture à la vie. Et à l'accueil des enfants. C'est pour ça qu'on ne pourra jamais changer. Oh, mais vous pourriez vous dire... Non. Quelle différence voyons-nous entre l'union libre, le PACS? Alors le PACS, c'est une fiscalisation du concubinage avec une très grande facilité pour le rompre. Pas comme le mariage civil. Hein. Mais le mariage civil, victime du PACS... maintenant, on peut se divorcer plus rapidement devant notaire. On peut même, devant notaire, fixer la garde des enfants, sans le juge aux affaires matrimoniales. Waouh, impressionnant. On peut même faire la convention sur les enfants devant notaire. Eh bien, la permission de divorcer devant notaire inclut même les enfants. C'est en cas de conflit qu'on ira au tribunal. Par contre, le notaire ne peut pas régler un conflit sur les enfants. Mais le mariage civil, c'était le premier pax par rapport à une société chrétienne. Se marier civilement sans invoquer Dieu, si on était croyant, il y avait quelque chose qui manquait. Donc on présumait que la personne n'avait pas vraiment l'intention d'être sérieusement engagée. Alors même que le mariage civil, pendant de nombreuses années, nombreuses décennies, a été indissoluble. Vous voyez, de 1814 à 1884, il n'y a pas eu de divorce. Divorce qui était de 1791 à 1814. Vous voyez ? Le divorce pour faute a été rétabli en 1884 et le divorce par consentement mutuel en 1975. Mais avant 1975, vous ne pouviez vous divorcer que si vous étiez en querelle violente, forte. Pas forcément jusqu'au cou, mais c'était le temps des lettres d'insultes. Vous voyez ? Même si vous n'étiez pas adultère, c'est-à-dire d'aller avec une autre femme ou un autre homme, vous disiez devant le juge, j'ai trompé ma femme, ou la femme, j'ai trompé mon mari. Mais quand vous étiez d'accord pour vous séparer, en fait, vous faisiez un simulacre de divorce pour faute. Mais comme il n'y avait que le divorce pour faute, vous n'aviez pas d'autre possibilité pour faire un divorce par consentement mutuel. Mais justement, la religion demande l'indissolubilité du mariage. Alors, vous allez dire, oui, mais il n'y a que l'Église catholique qui le demande. Même les orthodoxes, les protestants, les juifs, les musulmans. Ah, juifs et musulmans, c'est la répudiation. Hein, c'est pas la femme ne peut pas partir. Et je suppose que dans l'hindouisme, ça doit être ça aussi. Je ne sais pas si la femme peut partir. Par contre, chez les shintos, je crois que la femme peut partir, mais peut-être pas dans le shintoïsme le plus ancien. Dans le bouddhisme, je ne sais pas trop. Ça dépend des coutumes des pays bouddhistes. Mais force est de constater, comme disait monsieur le professeur Lévy, n'est-ce pas, il n'y a que le catholicisme qui n'accepte pas le divorce. Voilà. Au point que vous ne pouvez pas divorcer, vous pouvez vous séparer de corps, et vous ne pouvez pas divorcer. Alors, entre deux baptisés et le divorce, même le pape ne peut pas le dissoudre. Mais si il y a un mariage entre un baptisé et un non baptisé, et qu'il y a une séparation de corps, le pape peut dissoudre ce mariage si c'est le non baptisé qui a provoqué la séparation. Mais alors, le mariage doit se faire à ce moment-là avec un baptisé. Mais le non-baptisé peut très bien avoir une très grande honnêteté naturelle et ne pas vouloir se séparer et ne pas être à la cause de la séparation. Et là, le pape refusera de dissoudre ce lien. Pourquoi ? Parce que le mariage est de manière première et principale le lieu de l'amour et du pardon. Et comme la religion chrétienne est fondée sur l'amour et sur le pardon, c'est pas possible, on peut pas. On peut pas. On pourra nous triturer, on pourra pas. Voilà. Alors il y a la possibilité d'examiner la vérité du consentement, ce qu'on appelle la nullité du mariage, mais c'est pas une annulation du mariage. Ça dure un an et demi, deux ans d'examen et ça doit être dans la vérité. Hein. Par exemple, vous avez caché que vous aviez des tendances homosexuelles très très fortes. Vous avez caché que vous aviez une maîtresse. Ou alors, vous avez caché que vous avez fait des séjours psychiatriques longs et graves. Ou alors, vous avez caché que vous aviez fait de la prison. Eh bien, les consentements ne se rencontrent pas. Il y a une fausseté dans l'échange des consentements. Vous voyez ? Vous avez fait une tentative de suicide. Ben, vous devez. C'est grave, ça, par contre, dans la vie de quelqu'un. Donc, dans un mariage, ça, il faut le dire. Hein. Souvenez-vous de ce que je vous avais dit sur le jardin secret et tout ça. Une tentative de suicide, il faut le dire. ça fait partie d'une faiblesse de votre personnalité, mais que vous avez pu tout à fait surmonter, et que votre fiancé peut accepter. Et donc, ça, c'est pas un empêchement au mariage. Connaissons-nous les causes principales de la désaffection du mariage en faveur de l'union libre? Vous voyez, ben, c'est classique, hein. Mariage à l'essai, peur de se séparer, peur de se faire escroquer financièrement aussi. Vous voyez, donc, quelles sont les principales raisons des divorces? Voilà, il va falloir faire un catalogue. Elle est moins belle, elle vieillit. Donc, hein, ça, c'est la raison la plus pourrie des hommes de 50 ans. Mais elle existe. Alors, ils vont en enfer, eux, en général. Quand vous avez un gars de 50 ans qui part avec sa secrétaire de 25, c'est une ordure. Ça fait du bien, hein, de juger. Qui suis-je pour juger? Jésus nous a dit de ne pas juger. Ouais. Ah, bah non. Hein. Le bonhomme qui part avec une fille de 20 ans. Alors, dit, oui, mais attendez, on va se voir après. Vous savez, mon père a fait ça. Quoi. Il est parti avec. Et je le comprends, tout ça. Ma mère était très difficile à vivre. Elle était tellement gentille. Elle avait 25 ans. Tout ça, ça peut se comprendre et tout ça. Donc ne dites pas ça parce que mon père l'a fait. Ouais. Alors le péché n'existe plus, hein, dans ces cas-là. Si on a toujours une excuse psychiatrique et psychologique ou névrotique pour faire des choses dures, très dures pour les autres, à ce moment-là, il n'y a plus de péché, quoi. Il n'y a plus de péché. On peut faire tout ce qu'on veut. Du moment que ça me donne de l'équilibre. Et oui. Ne lisez pas de livres sur les pervers narcissiques. Vous allez retrouver votre époux, votre épouse. Mais elle est comme ça. Mais elle me manipule. Mais voilà. Enfin, elle veut ma perte. Voilà. Connaissons-nous les positions de l'Église et leur signification sur la séparation et le divorce? Pourquoi l'Église demande-t-elle de ne pas mener de vie commune avant le mariage sacramentel? Est-ce au nom d'un code moral? Oui. D'une sagesse humaine pour aider chacun à se choisir? Oui. Est-ce dans l'attente de l'engagement du Christ dans le sacrement du mariage? Oui. Mais voyez-vous, la question qui voudrait qu'on vous demande pardon, non. Il y a un code moral. Oui. Ensuite, nous sommes heureux de voir des couples qui, justement, se disent, voilà, maintenant il faut entrer dans la promesse. Voilà. Comment envisageons-nous la régulation des naissances? Mon Dieu,